Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine en partenariat avec BFM, actualité décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé avec Elsa Franz. Vous écoutez et vous regardez le 110e épisode de Quid Juris. Et cette semaine, l'actualité, c'est encore et toujours la guerre au Proche-Orient. 3 mois de conflit, quasiment jour pour jour. Alors certes, il y a un cessez-le-feu fragile, mais le détroit d'Ormuz, lui, est toujours bloqué, j'allais presque dire doublement bloqué, dans le golfe arabo-persique par les Iraniens et à la sortie du détroit d'Ormuz dans la mer d'Oman par ce qu'on appelle le blocus naval des Américains. Alors à l'heure où il y a des négociations directes ou indirectes entre les Iraniens et les Américains, eh bien on a besoin de comprendre quelles pourraient être les conditions diplomatiques mais aussi juridique d'une sortie de crise, avec une question parmi beaucoup d'autres évidemment, mais où est passée l'ONU? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un des meilleurs spécialistes du sujet. Bonjour Serge Sieur.
Bonjour.
Vous, les fidèles de Quid Juris vous connaissent bien, vous êtes professeur émérite de droit public à l'université Panthéon à Sas, vous êtes fondateur du Master Relations Internationales et du Centre Thucydide d'analyse et de recherche en relations internationales, vous avez travaillé comme expert à l'ONU, vous avez été juge ad hoc à la Cour internationale de justice de La Haye, vous avez été aussi pendant une dizaine d'années directeur scientifique de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement et vous êtes par ailleurs membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club des juristes. Et je voudrais commencer par finalement ce qui nous impacte le plus dans cette crise au Moyen-Orient, en l'occurrence le blocage du détroit d'Ormuz. Avant le début des hostilités, il y avait environ 120-130 bateaux qui transitaient par ce détroit maritime. Aujourd'hui, ces bateaux, ils passent au compte-gouttes, empêchés, je le disais, à la fois par le blocage des Iraniens dans le golfe arabo-persique et le blocus naval des Américains. Or, bah, il se trouve que la liberté de navigation est un principe fondamental du droit international et on apprend depuis quelques semaines maintenant que Téhéran, non content de vouloir nationaliser le détroit, veut carrément faire payer une sorte de droit de péage et un péage qui ne s'appliquerait pas d'ailleurs seulement aux bateaux mais également aux câbles qui passent sous les fonds sous-marins du golfe arabo-persique. Sur ce sujet précisément, qu'est-ce que peut le droit international? Qu'est-ce que peut l'ONU?
Alors écoutez, l'ONU a théoriquement d'immenses pouvoirs. Si le Conseil de sécurité considère qu'il y a une atteinte à la liberté de navigation et que cette atteinte menace la sécurité internationale, il a la possibilité de prendre toute une série de mesures, y compris des mesures coercitives. Mais évidemment, il ne le fera pas.
Et donc, à cause de ses membres permanents.
À cause de la division de ses membres permanents, oui. Mais on est dans une situation où le Conseil de sécurité est paralysé. C'est une situation qui s'est produite très souvent depuis la fondation de l'ONU. Le fonctionnement du Conseil de sécurité, son efficacité ont été intermittents. Il y a des périodes où il a fonctionné très efficacement, et puis il y a des périodes où, en raison, en fonction de la division des membres permanents, eh bien, il s'est trouvé paralysé, il s'est trouvé hors jeu. Donc, pour le moment, il est totalement hors jeu, ce qui ne veut pas dire qu'il soit absolument en dehors du paysage, parce qu'il peut être appelé à y revenir. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, d'après ce qui a été publié par les Iraniens tout récemment, ils souhaiteraient que tout règlement soit avalisé et garanti par le Conseil de sécurité par une résolution obligatoire.
Ce que la France, le Royaume-Uni seraient sans doute prêts à faire.
Prouver.
Mais la question, c'est les Américains, les Chinois et les Russes.
Alors, je pense que les Chinois et les Russes seront d'accord. La question est plutôt celle des États-Unis. Ils peuvent très bien accepter une résolution du Conseil, mais une résolution qui ne serait pas obligatoire, qui relèverait du chapitre 6 et pas du chapitre 7, puisqu'il y a une distinction entre ces deux chapitres, et les décisions obligatoires sont prises dans le cadre du chapitre 7. Mais après tout, dans la mesure où les Américains auraient accepté un accord, pourquoi est-ce que cette garantie supplémentaire ne serait pas... Celui qui serait certainement le plus hostile, c'est Israël. Parce qu'Israël, de façon générale, considère que l'ONU est d'une partialité révoltante, qu'il est le mauvais élève des Nations Unies, qu'il est en butte à une hostilité structurelle. Et donc, Israël refuse toute intervention des Nations Unies dans les affaires qui le concernent. Mais Israël n'est pas membre permanent et donc n'aurait pas la possibilité de s'y opposer. Simplement, ils peuvent faire du lobbying auprès des États-Unis pour les empêcher de le faire.
Alors, il y a un mot que j'ai employé, c'est droit de péage. C'est ce que réclament les Iraniens, 2 millions de dollars par tanker. En l'occurrence, ils ne parlent plus de droit de péage. Maintenant, on dit frais de navigation. Et c'est intéressant, ce terme, d'un point de vue juridique, parce que c'est exactement ce qui se passe dans un canal artificiel comme celui de Suez ou de Panama, sauf que le détroit d'Ormuz, c'est un détroit maritime, c'est pas un canal artificiel. Là encore, on est en dehors des clous du droit international maritime.
Absolument. Non seulement de la Convention de Montego-Bay, mais aussi de la coutume internationale, parce que c'est un droit qui est beaucoup plus ancien que la Convention de Montego-Bay.
La libre Montego-Bay, 1982.
La libre circulation à travers les détroits internationaux. Mais alors, c'est là où on voit l'extrême habileté de la diplomatie iranienne, c'est qu'ils contestent le caractère de détroit international, parce qu'ils considèrent que ça relève de leur territoire, finalement, et que finalement, ça ne relie pas deux portions de mer libre. Un détroit international doit relier deux portions de haute mer, deux portions de mer libre. Ils considèrent que le Golfe n'est pas vraiment une mer libre.
C'est presque une mer fermée.
Enfin, c'est semi-fermée. Semi-fermée. Et au fond, le précédent, c'est les Dardanelles. Parce que les Dardanelles, la différence, c'est que les Dardanelles, c'est uniquement au territoire turc. Alors que là, vous avez Oman.
Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans le détroit des Dardanelles, c'est le seul détroit où il y a une forme de droit de péage, en tout cas des frais de navigation pour l'emprunter.
Alors, en tout cas, il y a des limitations à la liberté de navigation parce qu'il y a un régime conventionnel qui résulte de la Convention de Montreux de 1936 avec des restrictions pour certains États, pour certains types de navires, par exemple pour les navires de guerre. Et donc, il y a un régime conventionnel particulier. Et donc, rien n'interdit, ça serait conforme au droit international, qu'on aboutisse à ce type de situation. C'est-à-dire qu'on conclue un accord, encore faut-il qu'il soit accepté par les tiers.
Oui, mais il y a un problème, et justement, vous posez la question des tiers, c'est que dans ce détroit, une partie des eaux sont des eaux territoriales iraniennes, l'autre partie des eaux territoriales omanaise. Et donc, il faudrait au minimum que Oman soit partie prenante. Or, Oman a déjà dit « Moi, je ne ferai pas payer ». Et puis, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est qu'évidemment, s'il devait y avoir un droit de péage, ce cas ferait sans doute jurisprudence et on pense à d'autres détroits dans le monde. Je pense par exemple au détroit de Malacca qui relie l'océan Indien à la mer de Chine. Là, c'est pas 30 ou 40 000 bateaux par an comme à Ormuz, c'est 80 000 bateaux qui passent par an.
Je pense que les Chinois n'accepteront pas Malacca. En revanche, Bab el-Mandeb,
là, à la sortie de la mer Rouge.
Voilà, là, le risque est plus grand. Mais vous savez, ça peut être contourné, ça peut prendre quelques années, mais ça sera contourné. C'est-à-dire qu'on aura des formules qui permettront l'exportation du pétrole par des voies terrestres, que ce soit des oléoducs ou autres. Et donc, en définitive, le risque à terme pour l'Iran, c'est de perdre l'utilité internationale du détroit d'Ormuz, que ça devient un phénomène local.
Alors juste une question, parce que là encore, on est sur le terrain du droit. Téhéran dit, nous, on est prêts à laisser passer les navires non hostiles. Sauf que, dans l'esprit des Iraniens, non hostiles, c'est pas juste les bateaux américains ou les bateaux israéliens, mais en réalité, c'est tous ceux qui, de près ou de loin, ont prêté alliance avec les pays belligérants, et on pourrait presque y inclure la France, qui, par des accords avec les pays du Golfe, vient même de façon défensive apporter son soutien. Donc c'est une notion très extensive, en fait, l'hostilité aux yeux des Iraniens.
Leur qualification est unilatérale. À partir de là, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est uniquement un moyen de pression. Il faut reconnaître, là, la très grande habileté de la diplomatie iranienne, qui est une diplomatie d'empire, au fond. Hein.
Elle dit, d'ailleurs, j'ai noté les propos, parce que ça illustre le sujet qu'on est en train d'évoquer ensemble. Ce sont les Iraniens qui parlent. La responsabilité de ces attaques incombe non seulement à ceux qui les ont perpétrées, donc les États-Unis, Israël, mais aussi à ceux qui les ont facilités, soutenus et encouragés. Donc ça veut dire que les pays du Golfe, pour prendre cet exemple-là, aux yeux de Téhéran, sont des co-belligérants.
Écoutez, pas tous. Les pays du Golfe n'ont pas véritablement encouragé les États-Unis, ni Israël.
C'est ce que dit Téhéran.
Oui, mais là bon, c'est une assertion qui est tout de même très discutable, très discutable. Écoutez, moi, il se trouve que j'ai l'occasion d'aller à Dubaï de temps à autre, et au mois de janvier, par exemple, je me souviens très bien que les Dubaïotes étaient très hostiles à toute intervention américaine en disant « mais nous sommes en première ligne. Dès lors qu'il y aura une attaque américaine, c'est nous qui prendrons. Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres, en réalité, et donc nous sommes menacés, nous sommes directement sur le front ». Et il ne voulait pas de ce type d'attaque.
Et c'est ce que, et d'ailleurs, ce qui va dans le sens de votre propos, c'est que au moment où Donald Trump menaçait l'Iran de relancer les hostilités, de frapper à nouveau Téhéran et l'Iran, bah, la plupart des pays du Golfe ont dit stop, stop, on négocie, on arrête les frappes.
Évidemment, parce que en réalité, on tape sur les bases américaines et sur les intérêts américains qui sont situés dans ces pays. Mais ça montre une chose, c'est que les États-Unis n'apportent pas de sécurité, ils apportent de l'insécurité, puisque, en définitive, leurs bases deviennent des cibles.
Absolument. La France et le Royaume-Uni ont réuni une quarantaine de pays prêts à former ce qu'ils appellent une coalition pour participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. On a bien compris quand les hostilités seront totalement terminées. Quelles pourraient être les modalités d'une telle mission, le cadre juridique? Est-ce que, par exemple, à vos yeux, il faudrait un mandat de l'ONU pour que cette coalition puisse agir juridiquement dans les règles du droit?
Alors, il y a deux formules possibles. La meilleure formule serait certainement qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité qui habilite, en quelque sorte, une force de paix, force de maintien de la paix, à intervenir pour sécuriser la navigation. Mais une autre formule serait qu'il y ait un accord entre toutes les parties concernées, c'est-à-dire aussi bien les États-Unis que l'Iran, que les pays du Golfe, que les pays participant à la coalition, donc un accord multilatéral mais limité tout de même à un certain nombre de pays. Les deux formules sont possibles. Mais la formule la plus simple est quand même celle du passage par le Conseil de sécurité.
Dans cette coalition, je disais 38 pays plus la France et le Royaume-Uni, donc une quarantaine, il y a des pays membres de l'OTAN. On pourrait imaginer que l'OTAN soit partie prenante de cette mission, ou l'OTAN étant dominée par les États-Unis, dans le contexte, c'est totalement inenvisageable.
Alors l'OTAN n'a rien à faire dans cette région du monde. L'OTAN,
c'est l'Atlantique Nord, c'est pas
cette
région
Nord,
du monde.
Et ça n'est en aucune façon son domaine de compétence. Et donc... C'est une vieille idée américaine de faire intervenir l'OTAN comme instrument de sécurité collective et pas de défense collective. Mais en fait, cette idée a été abandonnée depuis longtemps. Et donc non, l'OTAN n'a rien à faire dans cette affaire.
On vient de citer à deux ou trois reprises l'ONU pour constater quand même que l'ONU était pour le moins empêchée d'agir.
L'ONU est en réserve.
Oui, on a l'impression quand même depuis le début de ce conflit, je crois que le secrétaire général de l'ONU a dû prendre la parole deux, trois fois, essentiellement d'ailleurs pour parler de ce qui se passe au Liban actuellement, et on en dira un mot. Mais on a l'impression que l'ONU est singulièrement absente depuis le début de ce conflit.
Écoutez, il est en réserve, c'est-à-dire qu'il est dans la boîte à outils. Il est dans le paysage, et le cas échéant, s'il y a un règlement diplomatique, il sera certainement mis à contribution. Maintenant, le secrétaire général, la fonction qui est la sienne, n'est plus véritablement une fonction politique. C'est une fonction humanitaire. C'est ce que veulent les grandes puissances, qu'ils soient concentrées sur le domaine humanitaire.
Une sorte de conscience morale ?
Alors, si vous voulez, il est un peu comme le pape. Il a une stature christique.
C'est intéressant, vous prenez l'exemple du pape comme modèle, parce que à l'image du pape, le secrétaire général de l'ONU, combien de divisions ?
Oui, mais il incarne les souffrances du monde, et puis il exprime la conscience malheureuse du monde. Ça, c'est le secrétaire général. Vous savez, l'ONU, c'est pas un bloc. Vous avez trois ONU. Vous avez l'ONU des grandes puissances, qui est le Conseil de sécurité, l'ONU des petites puissances, qui est l'Assemblée générale, et puis l'ONU du secrétariat, et des organes intégrés, plus généralement. Et le secrétariat, c'est l'ONU aussi, mais c'est un troisième ONU. Et dans les organes intégrés, vous avez aussi la Cour internationale de justice. Ce sont des organes indépendants qui n'agissent qu'en fonction de leur conception de l'ONU, alors que les autres, ils agissent en fonction de leur intérêt d'État.
Eh ben, on va prendre un exemple, si vous le voulez bien. J'ai parlé de ce qui se passe actuellement au Liban, et singulièrement au Sud-Liban. Les soldats de Tsahal sont entrés dans cette zone, au Liban donc, avec l'intention de viser toute la zone qui va de la frontière israélo-libanaise jusqu'au fleuve Litanie, de viser cette région de tout ce qui, de près ou de loin, est chiite ou en tout cas affilié au Hezbollah. Sauf que dans cette partie-là du Liban, il y a 700 soldats, enfin il y a des soldats de la FINUL, il y a des Français, beaucoup de Français parmi eux.
Trois morts déjà.
Il y a trois morts. C'est clairement une violation de la souveraineté libanaise, des résolutions de l'ONU. Et là, j'ai envie de vous dire, même question, que fait l'ONU concrètement ?
Mais c'est la même chose, il est tout à fait impuissant, mais ce n'est pas la première fois. Je vous dis...
Je rappelle que la FINUL est au Liban depuis 1978.
Hein. Oui, alors elle a été renforcée à diverses reprises, mais Israël a toujours... écarter les Nations Unies, toujours tout refuser de la part des Nations Unies. Lorsqu'il y a eu des interventions à Gaza ou en Cisjordanie et qu'il était question d'enquête internationale, toujours Israël a refusé. Donc Israël se comporte comme un pays hors du droit, complètement hors du droit. Et alors, si vous voulez, on peut le condamner. Il y a des agressions multiples, il y a une violation complète du jus ad bellum, du droit de recourir à la guerre, et du jus in bello, c'est-à-dire du droit de la guerre et du droit humanitaire. Ça, Israël s'en fiche complètement. Mais la logique d'Israël, c'est il y a eu la Shoah, personne ne nous a soutenus. Nous ne laisserons personne intervenir sur la question de sécurité. Et donc, dès que notre sécurité est en cause, nous sommes seuls juges et nous devons agir seuls.
L'une des raisons pour lesquelles l'ONU n'est pas en mesure d'empêcher ce qui se passe au sud Liban, c'est peut-être à cause de ce que vous avez décrit il y a quelques instants. La mission de la FINUL, elle est placée sous l'égide du chapitre 6. Donc en clair, les soldats de la FINUL, ils ne peuvent agir qu'en situation de légitime défense ou alors éventuellement pour défendre les civils. La vérité, c'est que la FINUL qui est là depuis des années et des années, elle a les mains liées, elle ne peut strictement rien faire.
Oui, et ça a été un des problèmes lorsque cette résolution, la résolution 1701, qui renforçait la FINUL, a été adoptée. Certains auraient voulu le chapitre 7, mais le Liban ne voulait pas du chapitre 7. Et il n'y avait pas que l'Israël, le Liban non plus ne voulait pas du chapitre 7. Donc on les a placés sous le chapitre 6, en leur confiant des missions qu'ils étaient totalement hors d'état de remplir. Notamment, ils devaient surveiller la frontière et empêcher le passage d'armes de Syrie vers le Liban, ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Et donc, ils se sont assez rapidement renfermés dans leur base d'observation. Et ils n'avaient pas les moyens de remplir leur mission.
Mais vous venez de dire qu'Israël se moquait du droit international pour privilégier sa propre sécurité. Mais on pourrait vous rétorquer que le Hezbollah aussi se fiche de l'ONU et de toutes les résolutions, il y en a une de nombreuses, pour exiger le désarmement du Hezbollah. Or, même chose, l'ONU n'est pas en mesure de faire appliquer ses résolutions. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a une absence de volonté des États, peut-être justement parce qu'il n'y a pas les forces militaires nécessaires pour faire appliquer cela.
Non, mais vous avez raison, bien sûr, il faut renvoyer dos à dos, sur le plan moral comme sur le plan juridique, Hezbollah, Hamas et Israël, c'est certain. Ceci étant le terrorisme, n'oublions pas la naissance d'Israël, il y a eu des groupes israéliens terroristes. Rappelons l'attentat du roi David, de l'hôtel du roi David, qui a quand même fait plusieurs centaines de morts, ou l'assassinat du comte Bernadotte, qui était médiateur de l'ONU et qui a été assassiné par un groupe terroriste juif. Donc, voilà, on peut renvoyer vraiment dos à dos les mouvements terroristes. Et Israël se comporte à l'heure actuelle comme un État terroriste.
Alors, vous l'avez dit, il y a eu deux soldats français de la FINUL qui ont perdu la vie au sud Liban. Il se trouve que c'était donc des soldats de la paix qui accomplissaient des tâches dont ils avaient reçu mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'à vos yeux, et là c'est une question de droit que je vous pose, est-ce que c'est un crime de guerre au sens d'une violence du droit des conflits armés au sens des conventions de Genève, du statut de Rome et de la Cour pénale internationale.
C'est un crime de guerre. Oui, absolument.
Et qui peut déboucher sur quoi, du coup?
Qui pourrait déboucher sur des poursuites.
Mais on ne va pas traîner les dirigeants du Hezbollah devant la Cour pénale internationale, si c'est possible?
Il y en a déjà qui... Alors, pour le Hamas et pour le Hezbollah, il y en a déjà qui sont poursuivis, qui ont des mandats d'arrêt de la CPI. Mais ces mandats d'arrêt ne sont pas appliqués et ne peuvent pas vraiment être appliqués. Simplement, ils peuvent être poursuivis dans des États, au sein d'États. Par exemple, la justice pénale française pourrait parfaitement se saisir de crimes de guerre, dès lors qu'il y aurait une plainte. Elle ne l'a pas fait pour l'instant.
Alors, avant l'Iran, on parle beaucoup de l'Iran, et pour cause, mais avant l'Iran, il y a eu le Venezuela. Il y a toujours les prétentions de Donald Trump sur le Groenland. Tout le monde dit qu'il a désormais des visées sur Cuba. Est-ce qu'au fond, tous ces théâtres, qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres, est-ce que ce n'est pas l'existence même de l'ONU qui est remise en cause travers ces dossiers?
Non, l'ONU a vu pire. L'ONU a vu bien pire pendant la guerre froide. Rappelez-vous la crise de Cuba. Rappelez-vous l'affaire hongroise ou l'affaire de Suez. L'ONU a survécu à toutes ces crises. C'est même sa grande force par rapport à la Société des Nations, qui n'a pas réussi à surmonter les crises auxquelles elle était confrontée. L'ONU, vous voyez, le droit de veto, c'est en fait une manière de débrancher le système de sécurité collective. C'est un fusible. On met l'ONU hors jeu. Mais il peut parfaitement recommencer à fonctionner. Il suffit de le rebrancher.
Vous voulez dire qu'à la fin de la guerre en Iran, on fera appel sans doute à l'ONU et au droit international pour régler tout ce qui n'aura pas pu être réglé par la force ?
C'est ce qu'on a toujours fait. On a considéré que la Première Guerre mondiale, c'était un tombeau définitif du droit international. Il est ressurgi plus puissant.
Mais vous savez ce qu'on vous rétorque ? On vous rétorque, regardez, qui sont les dirigeants de ces États ? Aujourd'hui, le droit n'arrive plus à rien, c'est la force qui l'emporte. Vous entendez ce discours-là chez certains ?
Oui,
notamment chez des responsables politiques.
Je ne le trouve pas du tout impressionnant, je trouve même qu'il est faux, parce que...
L'argument de la légalité, ce n'est pas un peu simpliste, là, dans le décor géopolitique ?
Non, mais moi, je place du point de vue de l'efficacité. L'emploi de la force armée depuis 1945, ça toujours été un échec. Les États-Unis ont perdu toute leur guerre depuis 1945. Alors, ils peuvent avoir un outil militaire super perfectionné, mais quand ils s'engagent au Vietnam, quand ils s'engagent en Irak, quand ils s'engagent en Afghanistan, ben finalement, ils doivent replier les drapeaux et partir. Et donc, c'est un échec. Ils sèment le chaos, en plus. Alors que le droit a une capacité de construire. Après la Première Guerre mondiale, on a fait la Société des Nations. L'échec de la Société des Nations n'a pas empêché qu'on refasse l'ONU, après 1945. Et la grande capacité du droit, c'est de construire. Et je crois qu'il y a un exemple qui est très clair. Prenez le Moyen-Orient, dans son ensemble. C'est le grand échec du droit international. C'est une sorte de tombeau du droit international sur le plan de la paix et de la sécurité. Mais le résultat, c'est le chaos. Et prenez l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la grande réussite du droit international, parce qu'on a construit. Et je dirais, d'un côté, vous avez le Las Vegas sanglant des relations internationales. Toutes les transgressions sont possibles.
Ça, c'est le Moyen-Orient.
C'est le Moyen-Orient. Et puis de l'autre côté...
Las Vegas des transgressions internationales.
Las Vegas sanglant.
Oui.
Les transgressions. Oui, parce que c'est toutes les transgressions peuvent s'y faire. On a tout fait.
Et alors l'Union européenne, c'est quoi à côté ?
Eh bien, c'est Disneyland. C'est-à-dire, c'est la paix, la prospérité, la
liberté. Et les bons sentiments, on vous rétorquera.
Écoutez, les bons sentiments, la bonne volonté et la confiance mutuelle. On a réussi à établir entre les membres, alors ça tend à se détériorer, et il y a une chose qui m'inquiète beaucoup de ce point de vue, c'est l'idée de transformer l'Union européenne en machine de guerre. Parce que ça n'est pas son génie. Le génie de l'Union européenne, c'est la réconciliation et l'organisation de la paix. Dès lors qu'on veut en faire une machine de guerre, on risque fort de la détruire.
Je garde à l'esprit Disneyland et Las Vegas. On a parlé de droit international, Serge Sure, on a parlé du rôle de l'ONU. Je voudrais qu'on aborde ensemble les négociations qui sont en cours entre Washington et Téhéran. C'est la deuxième partie de Coup de Juris.
Iran, États-Unis, négociations ou impasse, Laurent Neumann reçoit Serge Sure, professeur émérite de l'université Paris-Panthéon-Assas.
Serge Sure, on a parlé du droit international, de l'ONU. Je voudrais qu'on parle des négociations entre Washington et Téhéran. On va parler aussi des négociations entre Israël et le Liban, mais d'abord Washington et Téhéran. Donald Trump, tous les jours, menace de frapper fortement l'Iran, tout en laissant sa chance aux négociations. Pourquoi d'ailleurs, selon vous ? Parce que les monarchies du Golfe lui ont demandé, parce qu'il est dans une impasse militaire. Avant de parler de droit, je voudrais que vous nous donniez votre vision du contexte ?
Alors, il est bien clair qu'il est dans une impasse stratégique, parce que les États-Unis ne peuvent pas obtenir la reddition de l'Iran par des moyens purement aériens. Pour y parvenir, il faudrait qu'ils lancent une opération terrestre, dont ils n'ont manifestement pas les moyens, et ils n'auront pas les supports nécessaires pour y parvenir.
Et bombarder à nouveau, c'est prendre le risque peut-être d'une riposte iranienne sur les infrastructures civiles des pays du Golfe, les outils au Yémen dans le détroit de Bab-el-Mandeb que vous citiez. Donc les risques sont peut-être trop élevés.
Plus le terrorisme. Ça peut très bien se dérouler.
C'est une des cartes de Téhéran, selon vous.
Bien sûr, sur le territoire américain, ça peut très bien arriver.
Et sur le territoire européen ?
Et sur le territoire européen, évidemment, mais l'Europe a réussi tout de même à rester à peu près hors d'eau dans cette affaire.
Alors c'est bien que vous preniez cette idée-là, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, les Iraniens ont menacé l'Albanie. Alors tout le monde s'est dit, mais pourquoi l'Albanie ? Parce qu'en fait, en Albanie, il y a une sorte de ville qui accueille des moudjahidines du peuple, qui sont des vrais résistants à la République islamiste d'Iran. Mais alors du coup, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'il y avait des moudjahidines du peuple qui étaient à Paris, banlieue parisienne notamment.
Ah,
donc
oui,
ça veut dire que tout à coup, demain, la France pourrait devenir une cible potentielle du terrorisme iranien ?
Non, parce qu'ils ne sont pas vraiment les moudjahidines du peuple. En France, ils sont vraiment très faibles. Ils n'ont pas de véritable implantation. Ils ont des moyens relativement limités. Mais si vous allez place de la Sorbonne, ben vous allez voir très régulièrement des manifestations dénonçant la dictature, etc. Et ce sont des moudjahidines du peuple.
Les négociations, je le disais, elles sont entre Washington et l'Iran, mais on a bien compris qu'il y a des pays tiers qui jouent les médiateurs. Au début, c'était plutôt le Pakistan. Là, on a l'impression que le Qatar est en train de prendre la main. Je voudrais avoir votre vision des choses d'un point de vue juridique, parce que un certain nombre de pays du Golfe disent « Mais attendez, de l'issue de ces négociations dépend notre sécurité, notre souveraineté, notre avenir ». Pourquoi nous ne ferions pas partie aussi de ces négociations ? Et c'est une vraie question qu'il pose. Et je pourrais même la poser d'ailleurs sur la France, que la France, avec ses accords de défense pour les pays du Golfe, bah, elle a peut-être aussi son mot à dire. Or, tout se passe uniquement entre Téhéran et Washington.
On les comprend tout à fait. Hein. Je pense que cette position est justifiée. Mais le droit international, c'est toujours la négociation. Toujours, il a reposé sur la négociation. Et c'est ce qui fait aussi sa flexibilité, parce que la négociation peut s'affranchir des règles et créer de nouvelles règles. Lorsqu'on sort de la coutume pour créer une convention, par exemple, qui résulte d'un accord, c'est le fruit d'une négociation. Donc, lorsqu'on parle de négociation, on parle nécessairement du droit international. Maintenant, pour la participation, il y a un problème d'efficacité. Plus vous multipliez les partenaires, plus la négociation devient compliquée. Et, alors, il est évident que l'idéal, et c'est ce que suggérait par exemple Pierre Lelouch, ça serait un nouveau congrès de Vienne. C'est-à-dire que pour mettre fin au désordre actuel, au désordre international qui est, dont on voit bien qu'il est grandissant et que personne ne maîtrise plus rien, on refasse un nouveau très grand congrès, mais cette fois à échelle mondiale.
Oui, mais si, parce que si, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si je vous écoute bien, imaginons qu'il y ait un accord entre les Iraniens et les Américains, mais que cet accord soit défavorable aux pays du Golfe, c'est-à-dire ceux qui, dans les 10 années, 20 années qui viennent, vont devoir vivre en face de l'Iran. Si cet accord leur est défavorable, ils sont tenus de l'accepter sans rien dire.
Ça veut dire que l'accord sera fragile. Ça veut dire qu'il sera aléatoire, qu'il sera précaire, et qu'à un moment donné, bien sûr, les pays du Golfe peuvent être obligés de l'accepter, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le refuser. Vous savez, pour refuser, il faut déjà avoir un certain degré de puissance. Hein. Ma définition de la puissance, c'est qu'il y a des degrés différents. Capacité de faire, capacité de faire faire, capacité d'empêcher de faire, et capacité de refuser de faire. Refuser de faire, c'est déjà une forme de puissance. Mais si vous n'avez aucune puissance, ben vous êtes bien obligé d'accepter ce qu'on vous impose. Et d'accepter un règlement qui ne vous convient pas, qui vous concerne, mais sur lequel vous n'avez pas de prise. Alors, ça peut arriver. Hein.
Alors justement, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le détail de ces négociations. Les Américains réclament la réouverture du détroit d'Ormuz, évidemment, l'abandon du nucléaire militaire et la restitution des fameux 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. En revanche, on a l'impression que la neutralisation du programme balistique, le soutien aux proxy, Hezbollah, Hamas, les milices chiites en Irak, tout ça est passé au second plan. On voit mal comment l'Iran pourra accepter de telles conditions, puisque tout ça est pratiquement existentiel pour la République islamique d'Iran.
Ils ne les accepteront certainement jamais. Mais en fait, on a le sentiment que le président Trump, il cherche un face-saving. Il cherche à sortir de ce guépier dans lequel il s'est mis tout seul.
Il veut sauver la face.
Et voilà, sauver la face et donc avoir un simili-règlement où il pourrait dire, voilà, nous avons gagné, mais en réalité, laissant tous les problèmes non résolus identiques à eux-mêmes. Et c'est le plus probable en l'état actuel des choses.
Sauf que si j'inverse les choses, maintenant si je regarde ce que l'Iran réclame, la garantie que les États-Unis et Israël ne les attaqueront plus jamais, le retrait des bases américaines du Golfe, un droit de passage, on en a parlé, pour chaque navire dans le détroit d'Ormuz, sans renoncer au nucléaire militaire, pardon, mais c'est aussi inconcevable pour les Américains. Ils sont allés faire la guerre pour ces sujets-là.
J'entends bien, mais c'est une position de départ. Et s'il y a un accord, ça veut dire qu'il y aura un compromis. Et la question est de savoir où sera le curseur. Et donc, dans quelle mesure Trump sera amené à manger son chapeau.
Donc vous pensez que il est impossible que l'Iran et les États-Unis puissent sauver la face, ou au contraire, chacun va nous livrer un récit en disant on a tous gagné.
Oui, ils peuvent très bien arriver à une solution. On dira, voilà, tout le monde est content et on est sorti de la crise, on a surmonté nos différends. C'est très possible. Auquel cas, le seul perdant sera Israël.
Alors justement, parce que là, je viens de parler des conditions posées par Téhéran et celles posées par Washington, mais il faut rajouter, vous avez raison, celles posées par Israël, le désarmement du Hezbollah, la création d'une zone tampon au sud Liban, on en a parlé, la chute du régime des Mollahs. Honnêtement, on se dit, même s'il y a un accord entre Téhéran et Washington demain, comme ces conditions posées par Israël ne seront jamais remplies, bah Israël va continuer sa propre guerre contre le Hezbollah.
Alors, à condition d'en avoir les moyens. Parce que s'il n'a pas le soutien américain, ça sera difficile pour lui. Et le problème, c'est que Netanyahou a des élections au mois d'août. Et Trump au mois de novembre. Et là, vous voyez la fragilité des régimes démocratiques. Parce que si les deux se trouvent enlisés dans un conflit sans solution au moment des élections, ils risquent fort d'en payer le prix.
C'est ça la vraie guerre asymétrique, au fond, c'est pour une démocratie d'aller faire la guerre contre une dictature, on se bat pas à armes égales ?
Ben pas contre n'importe quelle dictature, mais il faut bien voir que l'Iran, je crois qu'il y a une erreur qui a été faite au départ, parce que l'Iran, ça n'est pas simplement un régime, c'est un État. Et il y a un État profond. Et cet État profond, il tient. Et c'est un grand pays, une vieille civilisation. Cet État est un État solide. Et le nationalisme existe. Et donc, ils ne se laisseront pas faire.
Enfin, il y a quand même eu, en janvier, avant le début de la guerre, des millions de gens dans la rue, 30 000 morts, une répression absolument féroce. Visiblement, il y a 20 ou 25 % de la population qui soutient le régime des Mollahs,
mais
pas plus.
La population est tenue par la force, et elle est tenue. Et donc, tant qu'elle est tenue, l'Iran ne cédera pas. Et c'est pas la Libye. On a pu intervenir en Libye et éliminer le colonel Kadhafi. On a pu intervenir en Yougoslavie et éliminer Milosevic. Mais l'Iran, c'est tout autre chose. C'est une toute autre affaire. Et là, les Israéliens sont responsables parce qu'ils ont persuadé Trump que le régime était fragile et qu'il pourrait s'effondrer. Et ça, tout de même. Même si on n'était pas un grand connaisseur de la région, on savait que l'Iran, c'est une civilisation millénaire, près de 100 millions d'habitants. Et c'est pas possible. C'est pas possible de le détruire.
Je voudrais qu'on dise un mot quand même de la France. La France a dépêché dans la zone, prépositionné son fameux porte-avions Charles de Gaulle. D'abord, un mot de diplomatie. On peut en même temps envoyer le porte-avions Charles de Gaulle sur zone, pas très loin des navires américains, tout en disant, et c'est la ligne de la France, nous ce qu'on prône à Paris, c'est la désescalade, le dialogue, la fin de la guerre. C'est possible ? C'est cohérent ?
Ben non, c'est pas cohérent, mais c'est dû en même temps, et on a l'habitude. Non, c'est pas très cohérent, mais voilà, la France veut être dans le paysage. Et pour être dans le paysage, il faut avoir des atouts. Et donc, le Charles de Gaulle est là comme un atout diplomatique.
C'est Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon, qui disait un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie. C'est le cas,
oui,
là ?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est moins vrai maintenant compte tenu de la fragilité des porte-avions, parce qu'ils sont quand même très vulnérables. Et maintenant qu'il y a des drones à bas coût, en quelque sorte, les porte-avions, il faut qu'ils restent quand même loin du champ d'action.
Alors évidemment, on a commencé par Hormuz et on va presque finir avec Hormuz parce que, et c'est une question de droit, face aux pénuries...
Je peux vous livrer un petit quatrain dont on ne connaît pas l'auteur. Hormuz, oh ma muse, canaux et détroits sont trop étroits. Si Hormuz était plus large, on n'aurait pas de problème.
C'est certain, mais en l'occurrence, c'est un des détroits les plus étroits. Évidemment, Hormuz bloqué, ça veut dire des pénuries de pétrole, des problèmes d'approvisionnement. Certains, les États-Unis notamment, veulent carrément lever les sanctions sur le pétrole russe. Qu'est-ce que doit dire Paris ? Qu'est-ce que doit dire l'Union européenne ? Là, pour le coup, c'est la souveraineté européenne qui est foulée aux pieds. On a pris des décisions et d'autres que nous vont les fouler aux pieds.
Il faut pratiquer l'hypocrisie, on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on ne lève aucune sanction, mais on achète à des pays tiers qui, eux, reçoivent le pétrole russe. Ça se fait déjà. Et donc, on contourne ses propres sanctions.
Certains disent que la guerre au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine sont en réalité très liées. C'est votre avis aussi ?
Je pense qu'en effet, oui.
Certains disent même que Poutine est peut-être le grand vainqueur de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient.
Je pense que c'est plutôt la Chine. Je pense que c'était plutôt la Chine. Parce que Poutine est tout de même enlisé dans cette affaire ukrainienne, dont il a beaucoup de mal. Au fond, il est un peu dans la même position que Trump. Il n'arrive pas à sortir d'un guépier dans lequel il s'est lui-même placé. Et ça le conduit à être beaucoup plus proche et beaucoup plus dépendant de la Chine. Et donc, dans cette situation-là, dans cette configuration, il n'est certainement pas gagnant. Grand gagnant, c'est la Chine.
On parlait il y a quelques instants de la démocratie et des pays dictatoriaux. Vous disiez à juste titre qu'il y a bientôt des élections en Israël, en novembre aux États-Unis. Et c'est ma dernière question. Au fond, c'est peut-être l'opinion américaine qui va décider de la fin de la guerre. Peut-être que Donald Trump n'aura pas le choix que d'aller vers un compromis, même mauvais, pour arrêter tout ça et se donner peut-être une petite chance de l'emporter en novembre.
Je pense en effet qu'il a intérêt à ce que cette affaire soit terminée avant les élections de mid-term, parce que sinon, il risque sa place, parce qu'il peut parfaitement être destitué. Et il a accumulé tout de même un certain nombre d'échecs.
Alors destitué, je ne sais pas, mais perdre le contrôle du Sénat, perdre le contrôle de la Chambre des représentants et finalement avoir des contre-pouvoirs qu'il n'a pas depuis le début de son mandat.
Alors, il y a déjà des contre-pouvoirs, parce que la Cour suprême commence à résister à un certain nombre de ses décisions. Et on pensait que la Cour suprême... Je me souviens, j'avais assisté à une conférence d'un juge fédéral, pas un membre de la Cour suprême, mais ce juge fédéral nous disait... ne croyez pas que le pouvoir judiciaire aux États-Unis ait la capacité d'arrêter Trump. Ce seront les mid-terms. Mais en réalité, on se rend compte que la Cour suprême a déjà pris des décisions, notamment en matière de droit de douane, qui entravent largement la politique Trump. Donc il est sur le reculoir, là. Hein.
Serge Sûr, c'était passionnant de vous écouter. On a compris beaucoup de choses, et Dieu sait si cette guerre au Moyen-Orient est complexe. Merci d'être venu nous voir dans Quid Juris pour nous éclairer. Moi, je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible évidemment sur toutes les plateformes, sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 111e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.